Vous êtes sur RTL.
RTL Midi avec Agnès Bonfillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Ravi de vous retrouver pour une heure d'infos, de débats, d'opinions à partir de 13h. Vous avez la parole au 3210. N'hésitez pas si vous souhaitez réagir à l'actualité de ce jeudi 11 août. Une actualité bien évidemment toujours dominée par les incendies. L'aide européenne s'organise pour venir en aide aux pompiers français, notamment dans le sud-ouest. En Gironde, la reprise du feu de l'Andira, c'est extrêmement difficile à combattre. Malgré l'épuisement, les soldats du feu font face et ils sont aidés, vous allez l'entendre, par des habitants qui les ravitaillent ou encore par des agriculteurs qui jouent eux aussi un rôle fondamental. Anthony Kazmarek, bonjour.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
Toujours des conditions météo défavorables sur le front des incendies.
Oui, d'autant que cette journée marque sans doute le pic de la canicule pour la Gironde et pour les Landes avec des températures cet après-midi proches de 39 ou 40 degrés et un taux d'humidité extrêmement bas à 20%. Le vent en revanche sera très faible, inférieur à 10 km/h, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de flux et que le vent, même faible, vient tantôt du nord, tantôt de l'est, tantôt du sud. Donc évidemment, ce sont des conditions extrêmement compliquées pour les pompiers.
Dans le reste de l'actualité, si les professeurs des écoles n'étaient plus obligés d'aller jusqu'à Bac plus 5, le ministre de l'Éducation réfléchit à cette piste, sachant que le manque d'enseignants se fait cruellement sentir pour la rentrée prochaine. Aux États-Unis, une mère et sa fille poursuivies pour avortement illégal. Facebook a transmis des messages privés à la police. Comprenez-vous que la justice puisse avoir accès aux messages privés sur Facebook? Justement, c'est notre question du jour sur RTL.fr. Vous avez répondu oui à 68%, non à 24%. Nous parlions des conditions météo en Gironde il y a un instant avec vous. Anthony, qu'en est-il pour le reste du pays?
Malheureusement, toujours un temps extrêmement sec et ensoleillé. Un vent qui souffle aussi sur la moitié nord. Et d'ailleurs, le risque d'incendie sera aussi très élevé de la Bretagne à la Vendée et du centre Val-de-Loire jusqu'au plateau Lorrain. À noter aussi quelques orages qui seront parfois violents dans le courant de l'après-midi sur les Alpes du Sud et la montagne Corse avec de la grêle et de fortes rafales de vent. Et puis les températures, encore une fois caniculaires, généralement comprises entre 33 et 39 degrés, 34 à Paris, Clermont-Ferrand, 36 à Nantes et à La Rochelle et jusqu'à 39 degrés à Bordeaux. Toujours 18 départements en vigilance orange canicule de l'Atlantique jusqu'à la plaine toulousaine.
Merci beaucoup Anthony, à tout à l'heure, 13h.
RTL Midi.
Il l'appelle le monstre. L'incendie qui a repris en Gironde près de l'Andira, c'est devenu l'ennemi public numéro 1. Près de 7000 hectares brûlés en moins de 48 heures. Valentin Boissé, vous êtes l'envoyé spécial pour RTL sur place. Bonjour à vous.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
La commune de Belin-Bélier est particulièrement touchée, Valentin. Au moins 16 maisons détruites.
Oui, des carcasses de voitures calcinées, mais surtout ces maisons dont il ne reste que les murs. Les toits ont tout simplement fondu. Le quartier a brûlé très vite. Les pompiers n'ont donc pas pu le protéger. Le corps de ferme de Gaëtan a brûlé en quelques minutes. Il vient désormais constater les dégâts.
On voit que là, tout a cramé. On a vu le feu au loin et en fait, il est arrivé tellement vite. Et en 2-2, c'est venu cramer le corps de ferme. Toute la charpente est tombée. Puis vous voyez la structure métallique a fondu tellement que le feu était intense. Et puis avec la chaleur, quoi.
Qu'est-ce que vous ressentez en voyant ça?
Ça fait mal au cœur déjà de voir que tout le monde s'investit autant pour chez soi et puis de voir une maison comme ça. Et la verdure avant qu'elle reprenne là.
Le lieutenant-colonel Mindous reste inquiet car tout autour la tourbe continue d'émettre de la fumée.
On a mis des engins justement à la fois, des engins urbains et des camions citernes de feux de forêt pour protéger le hameau. Mais quelques maisons, malheureusement, ont été impactées par le feu.
Juste derrière, la forêt continue de brûler. Aujourd'hui, les conditions sont très mauvaises. La fumée est plaquée vers le sol. Résultat, les moyens aériens ne peuvent pas être utilisés. La puissance de feu regagne donc actuellement en intensité.
Merci beaucoup Valentin Boissé en Gironde pour RTL. Toujours sur place, attention, une info pratique. L'autoroute A63 est interdite à la circulation, on vous le rappelle, dans les deux sens, entre les échangeurs 22 et 17. 6 autres incendies sont toujours en cours, notamment en Lozère, dans l'Aveyron, la Drôme ou encore le Jura. Dans le Maine-et-Loire, bonne nouvelle, le feu ne progresse plus. Les flammes ont détruit 1500 hectares depuis lundi. Là aussi, on craint des reprises de feu. Bonjour Pierre-Baptiste Vanzini.
Bonjour Agnès, bonjour à toutes et tous.
Et du coup évidemment les pompiers restent très mobilisés.
Oui, effectivement, depuis cette nuit, le feu est fixé. Les pompiers le contiennent dans un périmètre de 21 km. Plus de 1500 hectares sont déjà partis en fumée et les 300 pompiers restent fortement mobilisés ici. Mais le maire, Philippe Chalopin, commence à souffler.
J'ai eu une nuit à peu près correcte. Une petite nuit, mais un peu plus correcte. On est un peu moins inquiet. Il faut dire que les moyens aériens qui ont été déployés pendant 3 jours ont sauvé le secteur, puisque sinon le feu aurait vraisemblablement atteint un certain nombre de communes. Les pompiers restent fortement mobilisés parce qu'effectivement, ce matin, les conditions météo sont plutôt bonnes. On craint cet après-midi une chaleur importante et un retour du vent.
Et l'inquiétude, vous l'entendiez, c'est évidemment les reprises d'incendie. Un feu est particulièrement actuellement sous surveillance compte tenu de la nature du sol qui l'entoure, une tourbière où le feu pourrait se tapir pendant des semaines.
Le reportage de Pierre-Baptiste Vonzini pour RTL dans le Maine-et-Loire. Des milliers de pompiers sont mobilisés et ils trouvent une aide chez les habitants. On voulait rendre hommage à travers deux témoignages ce midi à ces personnes qui aident, qui sont en deuxième ligne et qui sont essentielles. Nous sommes d'abord avec le gérant du camion de pizza Droupies à Ostens. Bonjour.
Bonjour.
Alors votre surnom c'est Droupi, hein, c'est ça?
C'est ça.
Très bien. Donc vous faites votre tournée dans les villages en fait qui ont été évacués autour d'Ostens. C'est comme ça que vous aidez, que vous essayez d'aider au maximum?
Alors en essayant de gêner le moins possible la circulation. Alors moi sinon mon activité elle se fait sur les villages entre Ostens, Samail, Louchat, Saint-Fusan. Donc des villages qui sont fermés aujourd'hui. Et donc principalement, on a fait les courses pour reprendre l'activité suite au premier à la première évacuation.
Oui.
Et deuxième évacuation, les denrées périssables, voilà, plutôt que de le jeter. Comme je travaille essentiellement avec des produits frais, je complique sur des pizzas et je les emmène à la salle des fêtes. Et ça réchauffe un peu le moral des gens, que ce soit les bénévoles ou les pompiers.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a à la fois les bénévoles, les habitants qui ont dû évacuer, mais aussi les pompiers qui profitent de votre générosité.
Oui, c'est ça. Alors après, tous les commerçants participent à cet élan. Hein. Il y a d'autres restaurants sur la commune, il y a une boulangerie. Tout le monde donne un peu du sien. Et c'est un bel élan de générosité. Enfin, C'est dommage de voir ça que dans des situations comme celle-là, mais bon, ça permet de le voir quand même.
C'est une évidence pour vous d'aider comme les autres commerçants?
Autant que possible, oui. Oui. Encore une fois, en essayant de perturber le moins possible. Donc, je propose mon aide et ensuite je reste chez moi, j'attends qu'on me sollicite.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ce que vous faites. Je rappelle que vous êtes le gérant du camion de pizza Droupies à Ostens. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et nous allons retrouver, alors cette fois, c'est dans le Maine-et-Loire. Dans le Maine-et-Loire, le feu, on le disait, est fixé. Et c'est notamment grâce aux agriculteurs qui se sont énormément mobilisés pour aider les pompiers sur place. Nous sommes avec Fabien Fouineau. Bonjour, monsieur.
Oui, bonjour.
Vous êtes secrétaire général des jeunes agriculteurs au canton de la Flèche, à Baugé-en-Anjou. On le disait, le feu est désormais maîtrisé. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous avez pu aider les pompiers sur place?
Nous, en tant que jeunes agriculteurs, on a fait un appel à la mobilisation solidaire entre les cantons de la Flèche, les cantons voisins. On est venu avec des tracteurs, des citernes à eau. Et donc, soit on remplissait les camions de pompiers, soit on allait au bord des routes pour faire des pare-feux et éviter que les feux passent de route en route.
Et est-ce que vous vous êtes dit c'est dangereux mais on y va quand même, on fait ce qu'on peut, ou est-ce que vous n'êtes pas posé de questions, vous y êtes allé tout de suite?
On ne s'est pas posé de questions dès le départ, non. On a foncé parce que nous on travaillait avec la terre, donc on a foncé directement pour aider. Après, si évidemment on a le côté danger qui est resté dans nos têtes un petit peu, mais tant pis, il faut aider et on ne pouvait pas laisser partir en flammes tout ça.
Et ils avaient besoin d'aide, les pompiers, c'est eux qui vous ont demandé de venir en renfort?
Au début, ils ne nous ont pas demandé, mais au fur et à mesure qu'ils voyaient que ça les aidait beaucoup, ils ont demandé du renfort. Et donc nous, avec nos réseaux, avec nos contacts, on a fait venir beaucoup de monde. Il y a eu une centaine d'agriculteurs à se déplacer, d'un petit peu partout de la Sarthe et même de hors Sarthe. C'est eux-mêmes qui nous ont demandé de l'aide. Ouais.
Et là aussi, vous avez vu combien ça avait été très très important?
Oui, exactement.
Très précieux?
Oui. ils réclamaient eux-mêmes, hein, il faut d'autres tonnes, donc voilà.
Et là, on le disait, les feux sont fixés, mais la vigilance reste extrême, évidemment, la surveillance, vous continuez à jouer un rôle, là aussi ?
Là, on n'y va que s'ils nous appellent eux. Là, on les laisse, pour l'instant, ils gèrent tout seuls, et on n'y va qu'en renfort si besoin.
Donc là, en fait, vous faites partie du dispositif au cas où ?
C'est ça, exactement. D'accord. Pour la suite, et puis pour évacuer éventuellement des fermes si besoin, pour les animaux, etc.
Il y a eu des évacuations, justement, des fermes dans le Maine-et-Loire ?
Il y a eu un petit peu, ouais. Il y a eu un rat juste à côté de Bordeaux, et puis une exploitation de vaches laitières. Voilà, c'est les deux seules grosses exploitations qui ont été évacuées.
Et dans ces cas-là, les exploitants ont pu revenir sur place, ou comment ça se passe ?
Pour l'instant, non, pas encore.
Et les animaux se trouvent où ? Ce sont d'autres agriculteurs ?
Ils sont chez un ancien agriculteur qui avait beaucoup de prairies, donc on a mis les animaux à l'abri chez lui.
Merci beaucoup en tout cas Fabien Fouineau d'avoir été dans RTL Midi. Encore un mille merci pour ce que vous faites pour les pompiers, comme tous les bénévoles autour, que ce soit en Gironde, dans le Maine-et-Loire ou dans les autres départements touchés par les incendies. Fabien Fouineau, je rappelle que vous étiez avec nous, vous êtes le secrétaire général des jeunes agriculteurs. Merci beaucoup. Tout le monde a un rôle à jouer. Écoutez l'appel lancé ce matin sur notre antenne par Grégory Allione, le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Il s'adresse à tous.
Je les en supplie d'avoir une attitude citoyenne dans tous les massifs forestiers. Les forêts en ce moment sont de véritables poudrières. Et si on veut nous aider, c'est de ne pas y aller. Il faudrait fermer presque l'ensemble des massifs forestiers tellement ils sont dangereux. Ce sont de véritables barils d'essence, de carburant, qui en ce moment sont malheureusement avec une étincelle, peuvent prendre feu. C'est un pot d'échappement qui tombe d'une voiture, d'une mobilette, d'un scooter. C'est le barbecue, c'est la cigarette. Donc je les en supplie, prenez soin de vos sapeurs-pompiers, prenez soin de vos massifs et évitez-nous des catastrophes. Et nous, on essaiera de lutter contre celles qui sont malheureusement en cours en ce moment.
Grégory Allione, invité de RTL ce matin avec Jérôme Florin. Autre aide précieuse dont on n'a pas toujours conscience dans la lutte contre les incendies. Ces entreprises qui s'organisent pour laisser partir leurs salariés, des pompiers volontaires. Alors sachant, Anaïs Bouissou, que tout est écrit noir sur blanc à l'embauche de la personne.
Oui, un salarié qui est pompier volontaire peut signer ce qu'on appelle une convention de disponibilité. C'est un document qui fixe les règles entre l'entreprise, le volontaire et la caserne. Tout est fait et effectivement passé en revue. Les autorisations d'absence pour se former, pour des missions d'urgence. Sachant que si l'absence du salarié met vraiment en danger l'entreprise, l'employeur peut toujours dire non. François Asselin, le représentant des petites et moyennes entreprises, appelle les patrons à libérer au maximum leurs salariés, surtout en ce moment.
Vous êtes dans tel département qui est situé peut-être à 100, 200, 300 kilomètres d'un lieu d'incendie. Si vous pouvez faciliter la mise à disposition de votre salarié pendant le temps d'intervention, bien évidemment, tout cela n'est pas sans conséquence pour l'entreprise, parce qu'en termes d'organisation, vous comprenez bien que c'est pas évident. Mais en attendant, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, quoi, nous sommes tous solidaires.
Voilà, pendant sa mission, le salarié pompier volontaire continuera de percevoir son salaire et l'entreprise pourra, dans certains cas, bénéficier d'une compensation financière pour faire face à l'absence.
Merci beaucoup Anaïs Bouissou. Et si vous êtes patron, justement, que vous employez des pompiers volontaires, n'hésitez pas à nous appeler au 3210. Votre témoignage nous sera très précieux là aussi. Merci beaucoup Anaïs. Allemagne, Grèce, Pologne, Roumanie et Autriche, dans les prochaines heures, plusieurs pays vont envoyer des renforts en France pour lutter contre ces incendies. Ce matin, sur le réseau social Twitter, Emmanuel Macron les remercie. Et à l'instant, la Première ministre Elisabeth Borne, qui est sur place en Gironde, détaille ce renfort.
Le président de la République, quand il est venu fin juillet, avait annoncé qu'on allait renforcer nos moyens d'intervention. Depuis, on est passé de 2 hélicoptères bombardiers d'eau à 9 aujourd'hui et d'ici la fin de la semaine, 11 hélicoptères bombardiers d'eau. On mobilise également l'Union européenne pour relancer des commandes d'avions bombardiers d'eau. Et puis aujourd'hui, on bénéficie pleinement de la solidarité européenne. Il y a des Canadairs grecs qui vont arriver aujourd'hui. On a aussi des avions suédois. La Commission européenne vient d'annoncer qu'elle mobilisait également des avions de la force européenne pour venir en appui à la France. Et puis on a aussi des moyens terrestres qui vont être mobilisés d'Allemagne, de Pologne, d'Autriche, de Roumanie. Donc on voit que la solidarité européenne joue pleinement son rôle dans cette crise à laquelle nous sommes confrontés.
Et nous reviendrons évidemment sur ce déplacement d'Elisabeth Borne, la première ministre qui est en Gironde en ce moment même. Des échanges privés sur Facebook qui peuvent servir de preuve aux États-Unis. Une jeune fille est poursuivie pour avortement illégal. On en parle dans un instant sur RTL.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Agnès Bonfillon.
Midi 45 sur RTL. Facebook doit-il livrer vos messages privés aux autorités quand ces dernières le demandent? C'est ce qui vient de se passer en tout cas aux États-Unis, dans l'État du Nebraska, qui ne considère plus l'avortement comme un droit constitutionnel. Une adolescente et sa mère sont poursuivies et les enquêteurs, Sophie Jousselin, se sont appuyés sur un échange via Messenger.
Oui, en avril dernier, alors que la police enquête sur la disparition d'un fœtus, la jeune fille de 17 ans et sa mère reconnaissent avoir brûlé et enterré le bébé mort-né qu'attendait l'adolescente. Mais au cours des interrogatoires, Céleste, la jeune fille, a attiré l'attention des policiers en consultant régulièrement sa messagerie Messenger. La police demande alors à Facebook d'avoir accès aux échanges privés de l'adolescente. C'est là qu'il voit que sa mère l'a aidé à se procurer des pilules abortives et lui a expliqué comment les utiliser. Céleste était alors enceinte de 24 semaines. Au Nebraska, à l'époque, il était illégal d'avorter au-delà de 20 semaines de grossesse. Les deux femmes sont alors accusées d'avortement illégal et risque la prison.
Et cette affaire provoque de très vives réactions aux États-Unis, Sophie.
Oui, car elle remet au centre des débats la protection des données personnelles sur les réseaux sociaux et en particulier celle des femmes qui avortent aux États-Unis alors que le droit à l'IVG est fragilisé outre-Atlantique. Les associations recommandent d'ailleurs aux femmes de ne pas parler d'avortement sur les réseaux sociaux et incitent même au boycott de Facebook, l'entreprise qui, dans un communiqué, reconnaît avoir accédé aux demandes des autorités comme elle doit le faire en cas d'affaire criminelle. Le réseau social maintient que la police ne parlait absolument pas d'avortement dans son mandat.
Merci beaucoup Sophie Jousselin du service étranger de RTL. Et pour aller plus loin, nous sommes avec Maître Alexandre Lazaregue. Bonjour Maître. Maître, vous m'entendez ?
Oui, je vous entends, oui absolument. Et vous ?
Oui, je vous entends parfaitement. Vous êtes en direct sur RTL et vous êtes avocat spécialiste du droit du numérique. On voulait vous poser d'abord cette question, Maître. Est-ce qu'une telle chose serait possible en France ? Ou est possible en France, peut-être ?
On peut dire plus vraiment depuis seulement le 12 juillet dernier, en réalité, parce que, évidemment, que lorsqu'on commet une infraction ou qu'on est suspecté d'avoir commis une infraction, et aux États-Unis manifestement désormais l'avortement en est une, eh bien les enquêteurs, ceux qui mènent des enquêtes, le procureur de la République a la possibilité de demander à toutes celles et tous ceux qui ont des informations importantes sur l'individu suspecté, autrement dit y compris les réseaux sociaux, les services de communication internet, les moteurs de recherche peuvent donner des informations et sont contraints de donner des informations utiles pour l'enquête. Simplement, depuis le 12 juillet dernier, la Cour de cassation a considéré que les données de connexion, les données Internet, les données qui relèvent de la vie privée, qui sont particulièrement intrusives vis-à-vis de la vie privée, ne pouvaient être collectées seulement pour les infractions graves. Infractions graves, terme qui n'est d'ailleurs pas défini. Autrement dit, pour les auditeurs, il faut savoir que lorsqu'on est suspecté d'avoir commis une infraction, eh bien, effectivement, les enquêteurs peuvent demander à des réseaux sociaux des informations vous concernant, des informations de données personnelles.
Tout comme ils pourraient avoir accès aussi à des messages type SMS dans nos téléphones.
Ah, tout à fait, toutes les données de connexion, que ce soit les téléphones sur lesquels vous avez communiqué, les appels que vous avez effectués, les recherches Google que vous avez menées, toutes les informations relatives à vos données personnelles que vous collectez à votre insu parfois sur Internet, eh ben peuvent être collectées par des enquêteurs lorsque vous commettez des infractions. C'est quelque chose qui est connu. Toutes les enquêtes passent par là. L'infraction la plus mineure aujourd'hui passe par des demandes de connexion Internet vis-à-vis des fournisseurs d'accès à Internet. Et ce qui n'est pas du tout nouveau, et Facebook fait toujours ça depuis toujours, et elle y est contrainte d'ailleurs. Mais simplement, puisque maintenant aux États-Unis l'avortement est un délit, et ben de fait, lorsque on avorte, eh bien on est suspecté d'avoir commis une infraction. Et donc les enquêteurs aux États-Unis demandent ce genre d'informations. On peut trouver ça tout à fait incroyable ou scandaleux parce qu'en France, l'avortement n'est plus un délit. Ce fut le cas par le passé d'ailleurs. Mais simplement pour les autres infractions qui sont en cours aujourd'hui en France, eh bien oui, les Français doivent savoir que tout ce qu'ils collectent sur Internet, toutes les informations qu'ils donnent en appelant, en faisant des recherches Google, en allant sur Internet, eh bien peuvent faire l'objet d'une collecte. Simplement, et j'insiste là-dessus, excusez-moi, depuis le 12 juillet dernier, on estime que c'est tellement intrusif dans la vie privée des individus qu'on ne le permet désormais uniquement pour des infractions graves, ce qui n'est pas défini, mais on comprend que pour les infractions mineures, eh bien, la question est posée et on peut demander la nullité et d'écarter ce genre d'informations qui sont trop intrusives pour la vie privée des individus.
Une dernière question, maître, concernant les conditions d'utilisation. Alors moi, et je ne suis sûrement pas la seule à ne pas avoir lu ces conditions d'utilisation lorsque je me suis inscrite sur Facebook. Est-ce qu'il est noté quelque part qu'effectivement Facebook peut collaborer avec les autorités, que ce soit les policiers, que ce soit la justice, les magistrats?
Ah oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est la raison, elle est simple, c'est que c'est la loi qui l'impose, c'est une règle d'ordre public. Il est dit que toutes ces informations peuvent être conservées au moins durant un an par tous les moteurs de recherche et les réseaux sociaux. Les informations que vous mettez sur les réseaux sociaux, on vous inscrivant, et toutes celles que vous diffusez sur vos posts, que ce soit public, à la demande de la justice, elles peuvent être faire l'objet d'une...
Ah, on ne vous entend plus, maître.
Il faut bien comprendre ça. Hein.
On a de gros soucis de liaison. On a de gros soucis de liaison. Ouais. Ce n'est pas vraiment pas vous, maître Alexandre Lazareg. Merci infiniment, en tout cas, pour toutes ces précisions. Merci d'avoir été notre invité dans RTL Midi. À E3, ils auraient commis au moins 25 cambriolages ou tentatives de cambriolage dans l'Ouest parisien. Un trio d'adolescents vient d'être interpellé par la brigade de répression du banditisme. C'est une information que RTL vous révélait dès ce matin. En fait, Thomas Proutot, chacun des membres avait un rôle extrêmement précis.
Oui, il y avait d'abord le crocheteur de serrure, le plus jeune de la bande, d'après les enquêteurs. Un mineur de 15 ans à peine, chargé d'ouvrir les portes des appartements vides dans des résidences cossues à Boulogne, Neuilly-sur-Seine ou dans les beaux quartiers de l'Ouest parisien. Ensuite, le guetteur posté en bas des immeubles et enfin le préposé à la fouille aidé par ses comparses pour rafler en quelques minutes les objets de valeur apparents et facilement monnayables, ordinateurs, tablettes, argent liquide ou bijoux. Ce qui frappe bien sûr, c'est l'âge de ces cambrioleurs, 15 ans, donc 17 ans et 18 ans, tous nés à Paris et élèves ou anciens élèves d'un collège de la capitale, j'ai bien dit un collège dont deux sont encore scolarisés. Leur obstination est également à souligner. Le Benjamin du trio avait déjà été interpellé mi-juillet par la brigade de répression du banditisme de la PJ parisienne, puis remis en liberté par la justice. C'est parce que les policiers l'ont reconnu dans le métro, puis suivi jusqu'au lieu d'un nouveau fric-frac à Puteaux, qu'ils ont pu interpeller le gang d'ados en flagrant délit. Ils ont été placés en garde à vue et seront prochainement jugés.
Merci beaucoup Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. Nous en parlions dans les titres, consacrer des moyens supplémentaires à l'éducation nationale. On l'a évoqué en début de semaine avec cette hausse prévue dans le budget 2023. Cela doit permettre une meilleure rémunération pour les jeunes professeurs. Et ce n'est pas tout, car le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, réfléchit à un recrutement avant Bac plus 5. Eh bien, pourquoi pas, lui répond Stéphane Crochet de SEUNSA.
On peut faire la première étape du recrutement au niveau licence. L'enjeu ensuite, c'est celui de la formation et de la qualification et de prendre le temps, par exemple, d'une formation en 2 ans, en alternance, avec davantage de temps dans les classes, de façon à avoir une formation plus professionnelle qu'aujourd'hui, parce que finalement, aujourd'hui, on recrute à niveau master, mais essentiellement par un cursus universitaire, et donc on prend peu de temps sur les questions de compétences professionnelles. Il est nécessaire d'avoir un travail très en profondeur sur l'ensemble de ces dispositifs recrutement-formation. Nous avons déjà connu 3 réformes de la formation depuis 2010 et tout ceci aboutit à une baisse d'attractivité de nos métiers parce que plus personne ne sait comment on devient enseignant et en revanche, tout le monde a bien compris que la façon dont on entre dans ce métier est de plus en plus difficile.
Stéphane Crochet de SEUNSA au micro d'Arthur Pereira. Trouver des solutions pour que le métier d'enseignant redevienne attractif. Qu'en pensez-vous? Nous attendons vos réactions, vos témoignages, là aussi au 3210. Plus assez d'eau pour les bateaux en Meurthe-et-Moselle. Le port de plaisance de Toul interdit la navigation fluviale à partir de ce soir, 18h. Les plaisanciers n'ont plus que quelques heures donc pour prendre une décision. Laisser leur embarcation sur place ou pas, Samuel Goldschmidt.
Le niveau d'eau est trop bas au port de France, ce nœud important de la navigation fluviale de Plaisance. La décision est donc radicale. Georges Boccanegra est l'adjoint au développement durable et aux mobilités de Toul.
Des mémoires de quelques anciens, donc c'est la première fois que ça arrive. Hein. Donc à partir de ce jeudi, l'accès au port de France, donc de Toul, reste interdit et bloqué par des bâtardos et des espèces d'écluses qui vont être mises pour préserver l'eau existante dans l'ensemble du port pour empêcher que les bateaux y souffrent.
Les plaisanciers comme Nicaise sont désormais coincés après les nombreux autres canaux déjà fermés.
Oui, en Bourgogne, il y a les Vosges qui sont fermés, Commercy s'est fermé, Commercy s'est fermé. Donc avant, on ne pouvait que partir sur Nancy prendre le grand gabarit. Mais là, ils vont mettre les bâtardos, donc on ne pourra plus le port, ça ferme, mais ce sera un bassin, voilà. C'est un étang, si vous voulez.
Et la navigation marchande à grand gabarit est elle aussi menacée. Il n'y a plus assez d'eau pour alimenter les écluses.
Le reportage de Samuel Goldschmidt pour RTL.
RTL en immersion.
C'est sans doute l'un des plus vieux métiers du monde, berger. En France, on en compte aujourd'hui un peu plus de 20 000, mais leur nombre ne cesse de baisser depuis plusieurs décennies. La plupart travaillent dans les massifs montagneux et l'été est la saison importante pour les troupeaux qui peuvent se délecter de l'herbe grasse en altitude. Denis Grandjoux, bonjour.
Bonjour.
Vous vous êtes glissé le temps d'une journée dans la peau d'un berger et d'une bergère, Denis. Ce couple vit en vallée d'Ossau, dans les Pyrénées-Atlantiques, dans une cabane qui se trouve près du sommet du col d'Aubisque.
Oui, bienvenue ici sur le col d'Aubisque, bien connu par les cyclistes. C'est un endroit vraiment mythique et culte. Et bienvenue donc chez Karine et Mathieu Bailoc, un couple de bergers qui a accepté de m'accueillir durant toute la journée. Une journée riche en émotions et riche aussi en tâches à accomplir.
Ici, on a 1650 d'altitude à la cabane de Gados. Et le col d'Aubisque, il est là-bas, il a 1709 mètres.
Ça commence à 6h30 avec la traite, certes avec des machines, mais enfin, il faut tout de même le faire. Et puis ensuite, bien sûr, le fromage.
On va faire des boules qu'on va façonner manuellement. Tu vois le ressenti du fromage.
Ah oui, c'est un peu chaud.
Eh bien oui, alors on est au lait cru, on ne doit pas dépasser 40 degrés. Donc nous on a chauffé, on était autour de 38 degrés. Donc là, Karine qui est juste à côté, le met dans une toile.
J'ouvre la toile.
Puis lève le moule et tu vas retourner le fromage sur l'autre.
Mettre un E à berger, à bergère, donc maintenant c'est important aussi la féminisation de ce métier-là.
Oui, tout à fait. Ben, on est, je crois, un tiers de bergère maintenant en montagne. Nous, c'était notre projet de monter en famille, en estive. C'est pas toujours évident, hein, mais on y arrive.
Quoi. Est-ce qu'il y a la Wi-Fi ici?
Alors non, il n'y a pas de Wi-Fi et la 4G passe pas non plus.
Donc pas de Wi-Fi, le téléphone passe. Je vais pas pouvoir rester, je suis désolé.
Tu vas pas rester?
Non, je ne peux pas rester.
Mais...
Alors une fois qu'on a terminé les fromages, eh bien là c'est direction la marche à pied avec le troupeau.
En fait, je vais ouvrir les brebis et tu vas les appeler.
Je vais les appeler, c'est-à-dire?
Alors ici on parle béarnais et donc on dit saï saï.
Saï, saï.
Voilà, ça veut dire viens, viens.
Là, c'est carrément impressionnant. J'ai 300 brebis avec des... Il y a des cordes aussi. Hein. Oh là là, saï.
Alors visiblement, vous en êtes bien sorti, Denis. Et si on a envie de devenir berger, quelle est la marche à suivre?
Alors, plusieurs études et des diplômes peuvent mener au métier de berger. Alors, ça peut aller du brevet professionnel au bac pro. Et comme l'explique Mathieu, les profils des bergers en exercice sont vraiment différents. Mais il y a tout de même une même philosophie qu'il faut respecter.
Parce qu'il faut une passion pour la nature et les animaux. Première des choses, la montagne, bien entendu, puisque l'été, on va en montagne. Mais berger, c'est toute l'année, en fait. Mais l'été, la partie estivale, c'est ça, je pense. L'amour de la bête, de la nature et de la montagne. Il faut quand même... une base technique par rapport aux animaux, à l'alimentation, aux soins, à la fabrication du fromage d'autant plus. Là, c'est un autre volet. Donc, ça englobe plein de choses quand même, le métier.
Quant au salaire,
nous, aujourd'hui, avec Karine, on va se dégager 1500 euros net par mois, sur toute l'année. Bien entendu, on ne compte pas les heures. Donc, si on fait au rapport d'heures qu'on fait, on est en dessous du SMIC. Mais par mois, on arrive à se dégager 1500 euros.
Chacun.
Voilà, mais voilà, bien relatif. Les 35 heures pour nous en 3 jours, c'est fait. Donc c'est 60 à 70 heures semaine. L'argent, par rapport au bonheur aussi qu'on peut recevoir et l'épanouissement qu'on a aussi, c'est tout est relatif quoi. On ne souhaite pas avoir 5 ou 10 000 euros par mois. Sinon, on n'aurait pas fait ce métier-là. Ça nous va.
Après cette journée en montagne, quelle est l'image que vous retenez, Denis?
Oui, franchement, ça a été une expérience incroyable. Je vous avoue que le moment le plus fort, c'est quand je me suis retrouvé avec ce bâton dans la main et les 500 brebis qui sont arrivées devant moi avec la meneuse, en fait, avec ses cornes hein, qui m'a regardé. Et il y a eu un petit moment de flottement. Et quand j'ai fait le mouvement avec le bâton que m'avait donné Mathieu, eh bien, et que j'ai commencé à faire ça et ça, eh bien là, elle a compris que je lui donnais une indication et elle est partie. Et là, je me suis dit, voilà, mon métier de berger est encore long, mais c'est vraiment incroyable de vivre des moments comme ça.
RTL en immersion, signé Denis Grandjoux pour RTL. Dans un instant, les auditeurs ont la parole évidemment sur RTL.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.